En 2021, on fête les 100 ans de la radio,
les 40 ans de la libération des ondes
et le lancement de la radio numérique DAB+ en France.
Toutes vos radios s'unissent pour célébrer le média préféré des Français du 31 mai au 6 juin prochain.
Émissions spéciales, ateliers, concerts, live stream, journées portes ouvertes.
Découvrez tous les événements proches de chez vous sur le site fêtedelaradio.com et sur les réseaux sociaux.
Pour cette semaine particulière au cours de laquelle nous célébrerons la radio, RPL vous propose une programmation particulière. Émissions spéciales, reportages, chroniques, témoignages. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble le début des radios associatives avec l'une des premières créées à Lille, Radio Campus. Pour en parler, c'est René Lavergne qui m'accueille dans les studios de Radio Campus aujourd'hui. Bonjour René.
Oui, bonjour. Eh bien, heureux de revenir un petit peu sur cette histoire ancienne maintenant. C'est toujours un grand moment de fêter quelque chose. La radio, bien sûr, c'est notre vie à nous, hein, dans les radios, notamment à Radio Campus, puisqu'on est la première radio de France en termes de radio, on va dire pionnière, pirate, comme on veut, enfin radio libre.
Alors avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter peut-être un petit peu.
Oui, donc moi je suis arrivé à Radio Campus, on va dire en octobre 1969, au moment où la radio s'est créée en mai, puis ça a redémarré en septembre après les vacances. Et moi j'ai intégré l'équipe à ce moment-là, où il y avait déjà une quarantaine d'émissions qui se faisaient en direct à l'époque, il n'y avait pas les podcasts, tout
ouais,
ça.
Non.
Et donc on était déjà sur un mode de programmation avec beaucoup de programmes différents, d'originalité. Il y avait des émissions littéraires, musicales, etc., politiques, et à l'époque, c'était quand même bien engagé.
Comment est-ce que vous avez découvert la radio dans votre parcours ?
D'abord, moi, je suis né dans... Enfin, personnellement, hein, je suis né dans une maison où il y avait de la radio. C'est-à-dire, mon père était, on va dire, dépanneur radio, il vendait des appareils de radio. Donc, j'ai baigné dans la radio en étant petit. Après, quand j'ai eu 13-14 ans, je me suis mis à écouter des radios d'un nouveau type pour nous, alors qu'on écoutait Tino Rossi en boucle chez moi. Ça m'a gonflé à cette époque-là, et on a écouté les radios pirates à l'époque en mer du Nord. Donc ça, c'était le coup de foudre, évidemment, et après, on a tous voulu faire, enfin mes amis, de la radio, comme les radios pirates. Hein. Donc Radio Caroline, Radio Nordsee International, enfin, etc. Et on passait en revue beaucoup l'actualité musicale, c'est-à-dire quand on était au lycée, on suivait ça de très près, on savait tous les parades de tout. Voilà.
Ouais.
Donc on était très radio à l'époque, musicale. Et après, à Radio Campus, j'ai découvert d'autres façons de faire de la radio, beaucoup plus diversifiées, avec des contenus musicaux et des contenus, on va dire, plus intellectuels d'une certaine manière.
Ouais. Et alors justement, pour en revenir au début de Radio Campus, quel a été l'élément déclencheur ?
Donc le créateur de la radio, il s'appelle Christian Vervard, et lui, il était à l'époque étudiant, hein, on va dire en fin 60, ouais, en 69, au mois d'avril-mai. Il était donc ici dans la résidence, hein, à côté, à Bachelard. Il s'ennuyait, donc il a eu l'idée de bricoler. Et comme à l'époque, il était dans des études BTS en électronique, il avait un peu de matériel, et avec ça, il a fait les premiers émetteurs, etc. Et voilà, il a réussi à faire ce qu'aucune université faisait, enfin, université littéraire aurait pu faire, puisque là, il fallait avoir des outils techniques à disposition. Donc lui, il a créé sa radio pour animer la résidence, parce qu'on s'ennuyait ferme ici. Donc quand je suis arrivé en octobre, j'ai entendu de la radio, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Et puis je me suis intéressé comment ça marche et tout, et j'ai pris le train en marche, et ça fonctionnait déjà assez bien avec les étudiants des résidences alentours.
Donc aujourd'hui, d'un petit bricolage, on va dire, Radio Campus a pris beaucoup d'ampleur. Quelles ont été les grandes étapes dans son histoire ?
Alors, les grandes étapes, c'est de ne pas être seul, donc d'avoir... on fait partie d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des radios libres, qui a permis l'éclosion, hein, d'une quantité importante de radios qui ont monté la pression, entre guillemets, politiquement, pour exister et se soutenir mutuellement dans un univers un peu complexe. On est parti, nous, sur une radio d'un point de vue étudiant, enfin radio étudiante, hein, sur une université, donc des valeurs un peu universelles, on va dire ça, université, universelle, c'est un peu la logique. Et puis aussi une radio où on réfléchissait à la société, à la vie, donc philosophie, politique, etc. C'était notre ADN, on va dire ça comme ça. Et puis la partie musicale, c'était tout ce qui n'existait pas sur les services des radios commerciales à l'époque et les radios de service public. Donc voilà, il fallait que ça bouge.
Et justement, c'était un parti pris, c'était assez engagé de choisir de parler de certains sujets. Et à plusieurs reprises, Radio Campus a failli se faire taire, en fait.
Bah, Radio Campus se faisait taire tous les ans. Ouais. Donc après, on reprenait quand on reprenait, quoi, quand il y avait possibilité. Mais c'était toujours un jeu de chat et de souris avec les autorités locales, on va appeler ça comme ça. Donc il fallait à certains moments faire le gros dos et rebondir dès qu'on pouvait trouver une faille dans le système.
Quelles ont été les périodes les plus difficiles et est-ce que des fois vous avez eu l'impression que Radio Campus s'en sortirait jamais ?
Les plus difficiles c'était avec Giscard d'Estaing, hein, donc qui lui avait vraiment bloqué et puis menacé les gens qui faisaient de la radio de se retrouver en prison, etc. Et la force de François Mitterrand c'est d'avoir repris ça politiquement pour avoir mis dans son programme la liberté. Alors, libération, c'est peut-être un grand mot, on peut revenir après là-dessus. Mais redonner à des radios différentes du service public et des radios commerciales périphériques de l'époque une existence légale, ce qui a été fait, promis et réalisé.
Ouais. Alors justement, qu'est-ce qui définit une radio libre ?
Alors, une radio libre, c'est une radio qui n'est pas a priori sous emprise de l'État, par exemple. On peut dire, on a une ligne éditoriale qui a été choisie par l'équipe et qui peut mener son projet sans contrainte.
Et alors, comment on différencie une radio libre d'une radio associative ? C'est vrai que pour les gens, il existe, on ne sait pas forcément, il existe différents types de radios. Quelle est la différence ?
Au départ, il n'y avait pas de différence, puisque les radios libres, en 81, quand elles ont été autorisées, il n'y avait que des radios associatives. Il n'y avait pas de radio commerciale à l'époque autorisée. Et les radios commerciales qui se sont développées après sont d'anciennes radios, on va dire, associatives, qui ont développé un secteur économique fort et donc qui a amené ces radios à entrer dans le jeu de l'économie et puis du business. Donc on peut dire que maintenant ça s'est stabilisé, mais à une époque, on était sous une certaine tension de rivalité avec ces radios-là. Bon, maintenant, l'horizon s'est un peu éclairci et on a une meilleure idée de qui travaille avec qui.
Et donc, vous le disiez, Radio Campus est assez pionnière. Elle a inspiré ensuite beaucoup de radios.
Alors, il y a eu beaucoup de radios libres en Italie. Et donc, ces radios-là, non seulement elles faisaient de la radio, mais elles faisaient aussi des émetteurs qui fonctionnaient bien. Et beaucoup de radios pirates de l'époque, enfin pirates libres, ont acheté des émetteurs en Italie, etc. Donc, nous aussi, on en a fabriqué, on en a donné à d'autres radios, on a partagé des installations, on a été les monter, etc. Et donc, ce mouvement de la radio a grandi, jusqu'à devenir, incontournable politiquement.
Et alors, quel a été l'âge d'or, on va dire, de Radio Campus ?
Bah, tous les âges sont des âges d'or. Hein. Moi, encore maintenant, je trouve que c'est un âge d'or, parce que ça fonctionne. Après, on a eu cette période ici qui est particulière avec le Covid, mais on s'en est globalement sorti, parce qu'on a trouvé les ressources pour continuer à diffuser et à produire des choses intéressantes. Ça a changé évidemment notre façon de fonctionner, mais tout n'est pas acheté dans l'époque actuelle sur la nécessité de s'adapter à de nouvelles contraintes pour trouver des choses un peu originales à réaliser. Donc au départ, c'est déjà le concept de mettre dans une radio à la fois des gens qui défendaient une musique différente et des idées qui était aussi différente.
Ouais.
Donc c'est donner de la liberté en termes d'expression. On a une radio de liberté d'expression, sinon de lutte. Donc l'originalité, c'est au départ ça, mais après, beaucoup d'autres ont rejoint ce concept de radio. Donc ces radios libres, au départ, sont des radios, d'une certaine manière, de lutte.
Et justement, aujourd'hui, quelle est la réalité des radios libres ? Est-ce qu'elles ont... toujours autant leur place? Est-ce qu'elles sont toujours aussi nombreuses?
Donc, on peut faire la distinction entre les radios commerciales, on peut en parler, hein, on n'a pas de problème avec les radios commerciales, et puis les radios qu'on peut dire héritières des radios libres, donc les radios associatives, qui sont donc des radios de contenu, on va dire plus comme ça, plus de contenu, de réflexion et de liberté de parole.
Quels sont vos souvenirs les plus forts avec Radio Campus?
Le fait de passer des soirées, voire même des nuits, et avoir des auditeurs de proximité, vraiment de proximité, qui nous livraient le café et les croissants le matin, c'était quand même des choses sympas. Après, les grands moments aussi, c'était les couvertures de concerts, de spectacles, de directs qu'on a pu faire dès qu'on a pu, avec les moyens qu'on avait. On a toujours essayé d'avoir des outils qui étaient performants. On a même fait des émissions avec de la CB, enfin n'importe quoi. Donc voilà, des moments technologiquement marquants qui ont marqué des étapes. Et les grands moments aussi, c'est le travail en commun avec les autres radios. Puisqu'en, on va dire, en 1991, on a créé la Fédération des radios associatives du Nord de la France, qui existe toujours. Hein. Donc on avait, je ne sais plus, 15 radios à l'époque. Là, il y en a 18, mais la région s'est agrandie. Enfin, voilà. Donc on a toujours une dynamique en région. Et surtout, ce qui était dur au départ à faire comprendre, moi j'étais président hein, pendant 20 ans, c'était de faire que chacun ait conscience qu'on travaille ensemble et pas contre les autres. C'est-à-dire que l'esprit de concurrence qu'il y avait avec les radios commerciales, justement, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas, mais qu'on voulait un espace de dialogue entre les radios associatives et aussi un outil de développement. Donc ça, on a vraiment bien bossé là-dessus. Et je pense que le résultat actuel, il est quand même conséquent, tant au niveau des conseils techniques, etc., organisation, administration, qu'au niveau des productions qu'on échange.
Et justement, est-ce que le fonctionnement de Radio Campus a changé? Vous avez réussi à conserver votre fonctionnement d'origine?
Ben, si je prends la grille de programme de 1969, en gros, il y a un peu plus d'émissions, mais il n'y a pas une grosse différence. Ouais. Non, il n'y a pas une grosse différence. On a toujours des responsables d'émissions qui gèrent leur émission de manière autonome, qui ont été acceptés au départ et qui continuent, certains, depuis le début.
Et c'est quelque chose d'important pour les gens qui diffusent sur cette radio, qui participent à vos émissions. Est-ce qu'il y a toujours cette notion de... On connaît tous l'histoire de Radio Campus et ça a toujours un impact aujourd'hui?
Bah, disons qu'on a des assemblées générales, des réunions, on reprend forcément les principes de base pour que tout le monde soit un peu en phase avec le concept initial, hein, puisqu'on a cet ADN-là qu'on préserve et qui est un peu notre culture commune. Au-delà de ça, les émissions sont libres, les animateurs font ce qu'ils souhaitent faire dans le cadre des projets qui ont été déposés et qui ont été validés par notre conseil d'administration. Donc c'est important de rappeler forcément à ceux qui font les émissions ou à ceux qui veulent en faire du cadre un peu dans lequel ils s'inscrivent, dans l'histoire et puis dans le concept.
Aujourd'hui, enfin, même dans l'histoire en fait, de la radio en France, qu'est-ce que Radio Campus représente?
Alors, pendant longtemps, on a été un peu occulté par justement les Parisiens qui se sont mis un peu en valeur dans les années 81, 2, 3, 4. Mais on fait toujours partie des... Bon, on est la radio reconnue comme la plus ancienne, hein, en termes de radio libre, voilà. Issue des radios pirates aussi, on va dire ça. Donc on a une existence qui s'est bien développée. On a des projets qui sont cohérents et qui permettent de voir à long terme. On est solide d'une manière générale, on est structuré et on a une grille de programme... Il n'y a pas beaucoup d'équivalence au nord de la France, on va dire.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, la radio?
Bah, c'est quasiment une vie en termes d'action. mais aussi en termes de... Quand on vit la radio, on a accès à plein de choses intéressantes. Donc c'est énorme pour quelqu'un qui fait de la radio. C'est au-delà de l'émission, au-delà de la préparation de l'émission, c'est aussi aller à la rencontre. C'est important, la rencontre, aller voir les gens, comprendre ce qu'ils veulent faire et leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent et leur savoir-faire. Tout ça, c'est, on est là, nous, pour passer un petit peu cette parole et cette connaissance auprès d'un public. Et ça, c'est passionnant. Tous les jours, on en découvre. En fait, je crois que le plus important dans la radio, c'est qu'elle permet la découverte et que cette découverte qu'on fait personnellement, on la transmet aux auditeurs. Ça, c'est génial.
Comment vous voyez l'avenir des radios et des radios locales, notamment aussi de Radio Campus plus généralement ?
Bon, comme je disais, la Fédération des radios veille à ce que les radios fonctionnent et puissent s'épauler en cas de besoin et en cas de dérive, vient la rescousse. Donc on a un projet collectif qui est important. On a aussi des fédérations nationales qui veillent au grain quand on voit se profiler des problèmes qui risqueraient de nous mettre en péril. Donc on a consolidé un peu tout ça. Ça s'est bien organisé. Donc j'ai pas de crainte a priori. Je vois pas en gros les menaces actuelles. Il y a un équilibre relatif économique. Tant que tout ça fonctionne, qu'il n'y ait pas un bouleversement politique, on devrait tenir le coup à bon moment parce qu'on a des programmes qui n'existent pas ailleurs. Donc creuser l'originalité, l'identité et la relation au public un peu différente, je pense que c'est une nécessité pour un pays démocratique.
On l'espère et on précise aussi à nos auditeurs que du coup, RPL, on fait partie, et Radio Campus, on fait partie de la même fédération justement des radios associatives. Est-ce qu'il y a un dernier message, René, que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs sur ce sujet de la radio ?
Alors, aux auditeurs de RPL, bah, effectivement, qu'on est sur le même chemin, on va dire, depuis 1980, hein, puisque dès le début de la fédération, RPL était présente, et que RPL a aussi trouvé des moyens qui lui permettent maintenant de se développer avec des projets un peu professionnel, on va dire ça comme ça. Donc la professionnalisation, c'est quelque chose qui est un plus pour des radios associatives. Il ne faut pas que ça prenne trop de part dans le fonctionnement. Mais au-delà de ça, on a besoin de gens compétents. Donc voilà.
Merci beaucoup René. Et puis merci à tous de nous avoir écoutés.
C'est un grand plaisir de partager le peu qu'on ait à l'esprit du fait que les radios sont dans le domaine, on va dire, du patrimoine commun, qu'elles sont à protéger et qu'elles sont à nourrir tous les jours de différentes manières.
C'est un beau message pour terminer. Merci beaucoup.